Le thème de la sorcière est à la mode en ce moment. On remet à l'honneur ces femmes guérisseuses, craintes pour leur savoir en matière de plantes et de santé. Et nous recevons une digne héritière de ces sorcières aujourd'hui, Élodie Lepoutre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes animatrice environnement depuis plus de 15 ans. Vous animez des sorties, des ateliers, des stages autour des plantes comestibles et médicinales. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette passion pour le végétal ?
Je suis pas sûre de bien pouvoir l'expliquer. Je crois que ça a toujours été pas. Ça a toujours été comme ça en fait. J'ai toujours été plus ou moins en lien avec le végétal et avec un chemin qui est pas tout droit. Je suis toujours revenue sur la ligne des plantes et de l'intérêt que je leur portais, et de ce que je pouvais véhiculer à l'extérieur et que les autres pouvaient me véhiculer aussi, de l'échange autour de cette thématique. Voilà. Donc j'ai choisi de pas être productrice pour plusieurs raisons personnelles, mais j'avais quand même envie de pouvoir transmettre des savoirs et d'être en lien avec des producteurs et productrices. D'où le thème d'animatrice environnement.
Vous êtes installée à Vernoux-en-Vivarais avec votre structure La Bardane qui propose ses stages, ses ateliers. Mais vous-même, est-ce que vous êtes ardéchoise d'origine?
Non, pas du tout. Je viens du Béarn, voilà, dans le 64. Donc j'ai grandi plutôt dans les montagnes, dans le milieu montagnard. Et j'ai un peu bougé partout en France avant d'atterrir en Ardèche à l'arrivée de mon enfant. Voilà, c'est là que je me suis stabilisée en Ardèche.
Est-ce que l'Ardèche, la Drôme ont des vertus particulières au niveau du recensement des plantes, justement?
Botaniquement parlant, je pense qu'en France, on est riche partout. Et là où il y a certainement la plus grande richesse, c'est sur le pourtour méditerranéen. Moi, c'est plus une question de cœur et de ce qui se passe dans cette région-là que je suis arrivée là-dedans. Et au niveau des relations que j'ai pu tisser par ici, que j'ai trouvées porteuses et qui m'ont donné du sens dans plein de choses que je faisais et confiance aussi dans ce que je faisais. Sinon, je ne sais pas si je l'aurais fait.
Qu'est-ce qui vous a plu précisément ici?
Un peu tout. Les gens, beaucoup. La nature, énormément. Les échanges. Et je sais pas, c'est comme si c'était de fait. Il fallait que je sois là. Ça se passait bien là. Et ça s'est lancé ici. Du coup, je pense que c'était que ça devait se passer ici. Voilà.
Vous animez des stages, des ateliers autour des plantes. Vous-même, comment vous vous êtes formée dans la reconnaissance de ces plantes?
Mes toutes premières bases ont été faites autour de BAFA, Nature, Environnement, tout simplement. Après, j'avais commencé à accueillir en parallèle, déjà pendant mes sorties et tout ça. Alors, c'était très simple, hein, c'était autour de l'ortie, du plantain et rien de plus compliqué à l'époque, même si elles sont bien plus vastes que ce qu'elles donnent l'air. Et de ça, quelques années plus tard, j'ai fait aussi un BTS, Gestion, Protection de la Nature, Animation Nature, où j'ai rencontré un professeur émérite en botanique qui m'a donné beaucoup d'envie de continuer dans ce chemin-là. Et entre, j'ai rencontré énormément de personnes où j'ai fait des petites formations, enfin des formations courtes, parce que petites, elles étaient grandes de fond, on va dire, notamment auprès d'une association qui s'appelle Vieilles Racines et Jeunes Pousses, que j'ai trouvé, voilà, qui me porte énormément et que des gens comme ça sont très intéressants à avoir sur le territoire.
Vous vous intéressez aussi à la mythologie autour des plantes. Que disent les plantes de notre société, de notre rapport au monde ?
Je veux dire, des mythologies, il y en a plein. C'est plutôt chaque plante porte en elle différentes mythologies qui se recroisent à ça en général, puisqu'il n'y a pas une culture au monde qui a trouvé des propriétés différentes sur les plantes. Du coup, je crois que c'est juste des façons un peu décalées par rapport à notre monde pour voir les choses qu'elles portent, elles, les messages qu'elles véhiculent. On est quand même un peuple qui a une richesse d'avoir énormément de cultures qui se sont métissées ici. Du coup, ça se ressent aussi dans ce qu'on peut remonter dans l'histoire, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être, autour d'une plante et des histoires qu'on raconte autour d'elle ?
Bah, je vais revenir peut-être sur l'Achillée. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça sera là. C'est un peu ma plante, celle qui m'a fait basculer, on va dire, complètement dans ce domaine-là. On peut la regarder du côté médicinal pur, puis après, quand on remonte dans les légendes qui tournent autour, ça va être des légendes qui sont en lien avec toute l'époque gréco-romaine, où on va retrouver l'herbe d'Achille, puisqu'elle porte le nom d'Achille, ou du coup, parce qu'elle a été enseignée à Achille par le centaure Chiron, qui a permis à Achille de soigner ses compagnons pendant ses batailles, puisque c'est une cicatrisante. On va la retrouver aussi chez les Lakota, vu que c'est l'herbe du guerrier, que du coup, alors il y a plusieurs légendes qui tournent autour, que je ne pourrais pas raconter comme ça en direct, mais qui permettaient justement aux guerriers de se soigner derrière. Donc il y avait un rituel qui allait avec pour permettre d'aider la plante à aller là-dedans. Ça a été utilisé chez les curandera au Mexique pour pouvoir aussi aider à soigner, notamment au niveau de l'accouchement, pour éviter les surplus de saignements au niveau de l'accouchement. Ça a été utilisé, alors c'est pas la même qui a été utilisée, des fois c'est les cousines, hein, c'est pas forcément la clé millefeuille qu'on a tendance à voir ici. Mais ça a été utilisé en Chine, notamment pour le Tao, parce que l'oracle du Tao, donc le I Ching, était fait avec des baguettes en aquilée. Enfin, c'est une plante où on va voir la multitude des croyances qui ont été autour, pas dans le terme péjoratif hein, de croyances, mais vraiment dans le terme porteur, et qui vont se regrouper sur une seule et même plante. Et cette plante, je crois que ça fait plus de 15 ans que je tourne autour, et il n'y a pas une année, un mois où je n'ai pas encore de nouvelle ouverture autour de cette plante-là, en fait. Et c'est un peu pareil sur toutes les plantes, à partir du moment où on se focalise, on s'arrête un peu plus à leur portée, qu'on commence à écouter ce qu'elles disent, et bien il y a vraiment plein d'informations qui viennent se regrouper autour d'elles, en fait. Et pourvu qu'elles aient une aire de répartition vaste, et bien on va la retrouver dans encore plus de cultures différentes, et chaque fois, quand même, le message de fond reste identique, en fait. Quelque part, il a un léger décalage, peut-être, mais il y a quelque chose d'identique. L'équilibre ne va pas d'un coup se retrouver à soigner autre chose que ce qu'on lui donne déjà. Bon, elle a une énorme panel, mais elle ne va pas avoir des propriétés qu'on ne lui trouve pas aussi ici, en fait.
On a la sensation que certains savoirs se sont perdus au fil du temps, même, c'est même sûr. Vous avez, vous, l'impression auprès des publics que vous rencontrez qu'il y a une vraie envie de se réapproprier des savoirs?
Énormément. J'en discutais avec une amie il y a peu qui travaille aussi autour des plantes et qui me disait qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années, quand on parle de notre plantain, on se sentait quand même vachement seul. Ça faisait un petit peu, voilà. Donc les gens nous écoutaient pour être polis, mais guère plus. Et maintenant, il y a vraiment des questions, on soulève des débats systématiquement qui vont bien plus loin que ce que je croyais un jour possible dans ce que je fais. Donc certes, moi aussi j'ai évolué, donc je peux certainement apporter autre chose, mais vraiment, les questions des gens, c'est plus profond, il y a une autre volonté que simplement consommer de la plante parce que c'est rigolo en fait. Il y a vraiment des volontés d'échange, de se réapproprier ce qui nous entoure. Et c'est, moi je trouve ça vraiment très chouette. Enfin, c'est très enrichissant, les groupes que j'ai sont tous très enrichissants en fait.
Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, justement, dans cet échange avec les groupes, que ce soit autour d'un atelier de cuisine, d'un atelier d'apprentissage de fabrication de baumes, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
En plus de parler des plantes, c'est ça. Ouais. Parce que c'est déjà parler des plantes. Mais je crois que c'est le fait que ça soulève toujours des nouvelles questions auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Ça me remet en question sur des choses que, des fois, ben, on a tendance... un peu comme tout le monde à s'assurer sur quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient soulever une question et qui nous dit « Ah ben non, en fait, ça peut aussi être pris autrement. » C'est aussi des échanges d'émotions, parce que c'est rarement sans émotion du tout. Enfin, en tout cas, moi, je ressens souvent plein de choses qui se passent. Puis c'est des temps de partage, c'est des temps d'échange, c'est des temps où on va réfléchir ensemble sur des choses qui sont déjà sous nos pieds. Et c'est pas inabordable. Au contraire, ça devient abordable pour tous. Du coup, et ça permet aussi à chacun, et ça j'aime bien, que chacun peut se rendre compte qu'en fait, si, ils savent des choses. Il n'y a pas des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. On sait tous quelque chose, puis plus on avance dans les plantes, plus on a l'impression de ne pas savoir, alors autant pas s'arrêter. Parce que du coup, tout le monde sait un peu, en fait. Ou moins un peu, si ce n'est pas beaucoup.
Élodie Lepout, je parlais de sorcières tout à l'heure et de savoir autour de ces plantes. Pourquoi, d'après vous, les plantes sont souvent une affaire de femmes? Pourquoi on trouve souvent des femmes dans l'animation, justement, de ce type de sortie nature pour aller reconnaître les plantes, par exemple?
Alors, j'ai pas de certitude là-dessus. C'est une question que je me pose encore et sur laquelle j'aurais, à mon avis, jamais fini de me poser la question. Mais il y a, à mon avis, plusieurs choses qui vont du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est qu'on a des cycles tous les mois qui font qu'on passe par tous nos états et qu'on a besoin certainement de se faire accompagner. L'accouchement y est pour énormément. Parce que avant, on disait bien qu'une femme qui était enceinte, c'était une femme qui avait un pied dans la tombe, parce qu'elle était entre deux mondes pendant toute une période, et il fallait pouvoir l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible. Avant, pendant, et puis après avec l'enfant. Et je trouve que c'est un rythme qui va très bien avec justement le fait d'avoir un enfant, puisqu'on est au niveau des plantes, au rythme des plantes, on regarde, on cueille, on utilise, et le besoin de soigner se retrouve à ce moment-là aussi. Que ce soit soigner en nourrissant, ou que ce soit soigner parce que... Ben nous, on a subi des choses déjà, mais avant tout parce que notre enfant, ben, un coup il a un rhume, un coup il se casse la binette, un coup il a quelque chose, et l'avoir sous la main, ça devient presque évident en fait, c'est à notre portée. Et après, il y a des choses qui peuvent être encore plus larges parce que je ne connais pas de plantes qui ont des hormones végétales proches de la testostérone. Par contre, au niveau de l'œstrogène et autres, ça y a. Il y a progestérone, estrogène, il y a, mais pas testostérone, voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je sais que dans les anciens, dans les mythologies anciennes de peuples plutôt panganistes, il y en a plusieurs, hein, mais ça se retrouve dans plusieurs peuples panganistes, les femmes étaient en lien avec les plantes et les hommes plutôt avec les arbres. Donc, c'est pas tellement qu'ils n'avaient pas de lien avec le végétal, c'était pas la même partie du végétal qui venait les faire les druides, c'était plutôt les arbres, même si les plantes étaient aussi en lien avec ça. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a, c'est plus à notre portée quand on porte l'enfant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en ayant eu mon propre enfant. Et je me suis dit, je ne suis certainement pas la seule à avoir vécu ça. Voilà.
À part les plantes et le dilopoutre et donc votre entreprise, la Bardane, qui propose donc des stages de reconnaissance des plantes, de cuisine, etc. Est-ce que vous avez d'autres passions ?
Enfin, j'allais dire que celle-là, comme elle est déjà hyper large, en fait, elle m'occupe toujours d'une manière ou d'une autre. Après, d'autres passions, oui, j'adore me promener, mais ça va aussi en lien avec ça. J'adore voyager, mais ça va aussi en lien avec ça. Du coup, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui m'habite tellement de partout que oui, je fais plein d'autres choses. C'est clair, du sport, je fais plein de trucs, mais chaque fois, j'ai un moment où ça revient. Voilà, je suis peut-être trop monomaniaque, en fait. Il faut peut-être que je m'ouvre.
Et alors, si on est intéressé par ce que vous proposez à la Bardane, comment on fait ?
J'ai mon site, qui a quand même mes infos qui sont regroupées, qui du coup est www.la-bardane-07.com. Et sinon, une page Facebook, la Bardane 07, où il y a tout qui est à peu près centré.